Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
Il est 8h45, merci d'être avec nous. Vous pouvez nous appeler dans quelques instants, 0826-300-300. On sera avec Arlette Chabot et Frédéric Dabi, directeur général de l'IFOP, et puis Éric Revel. Et en attendant, c'est la revue de presse avec Benjamin Glaise.
Oui, et on commence par Le Figaro qui fait sa une sur les origines du Covid-19 avec ce titre. La piste d'une fuite de laboratoire ressurgit.
Ben oui, le manque de transparence, en l'occurrence de la Chine, nourrit la suspicion de nombreux scientifiques qui demandent à l'OMS une enquête approfondie sur l'émergence du SARS-CoV-2. Un membre du collectif de recherche indépendant Drastic affirme notamment « On ne peut pas écarter qu'un doctorant du laboratoire P4 de Wuhan ait été infecté en effectuant un prélèvement, par exemple. » Proche du marché où l'épidémie a explosé, ce laboratoire constitue l'un des principaux centres de recherche mondial sur les coronavirus de chauve-souris, nous rappelle Le Figaro.
Oui. C'est un passionnant dossier. Il y a un autre dossier passionnant et chaud, c'est le football ce matin aussi. Le PSG face à l'histoire dans l'équipe, Benjamin.
Oui, pas de Kylian Mbappé en une, effectivement, puisque l'attaquant parisien reste incertain pour cette demi-finale retour de Ligue des Champions sur la pelouse de Manchester City. C'est ce soir à 21h, battu 2-1 à l'aller, les Parisiens réaliseraient un immense exploit en se qualifiant pour leur deuxième finale d'affilée dans la compétition. Même son de cloche pour le Parisien aujourd'hui en France, mais un brin plus optimiste quand même avec ce titre, les raisons d'y croire. Alors parmi ces raisons, il y en a 5, notamment le PSG qui cartonne à l'extérieur ou encore le fait que Paris est inscrit en moyenne plus de 2 buts par match depuis le début de cette Ligue des Champions.
Oui, et autre sujet qui est encore chaud bouillant, évidemment ça se passe en région PACA. Denis Caro est avec nous, directeur des rédactions du groupe Nice Matin. Bonjour Denis.
Bonjour.
Est-ce que vous poursuivez ce matin en une le feuilleton régional PACA ?
Oui, c'est pas le titre principal, mais effectivement, on poursuit ce feuilleton qui va nous occuper, je pense, pendant un certain temps, depuis cette annonce de Jean Castex dans le journal du dimanche, et ce séisme hein, à droite en région PACA, séisme qui est suivi partout, bien évidemment, avec cette réunion hein, qui se tient, ce comité stratégique des Républicains ce matin, qui doit décider de deux choses. Hein. Est-ce qu'il faut exclure Renaud Muselier et est-ce qu'il faut constituer une liste contre cette liste composée de Renaud Muselier et d'un certain nombre de représentants de la majorité présidentielle.
Oui, bien sûr. Non, mais ça, c'est le feuilleton, effectivement, l'un des feuilletons du jour. En une, Denis, d'un mot, qu'est-ce que vous avez mis ce matin dans Nice Matin et Var Matin ? Nice Matin ?
En une, c'est l'Italie qui nous ouvre la voie. L'Italie est en partie déconfinée et cela donne un avant-goût de ce qui nous attend le 19 mai. Et il faut dire que ça fait envie. Nous sommes allés faire un tour en Ligurie, dans les rues de San Remo, où les terrasses se remplissent à nouveau, même s'il manque encore les touristes, parce que pour rentrer en Italie, il faut encore produire un test PCR négatif de moins de 48 heures. Mais même sans les touristes, San Remo retrouve son animation. Et les Italiens qu'on a croisés ne boudent pas leur plaisir hein, au resto, au café, au théâtre, au cinéma. Patience, dans un peu plus de 2 semaines, ce sera à notre tour de profiter à nouveau de ces petits plaisirs de la vie.
Oui, merci beaucoup Denis Caro de nous donner aussi un peu de l'espoir et un peu du sourire en cette période. On en a bien besoin. Nous poursuivons donc le petit déjeuner de l'actualité avec nos éditorialistes et vous et au 0826-300-300 dans un instant, hein, Cécile.
Absolument, et avec Arlette Chabot et Frédéric Dabi, le directeur général adjoint de l'IFOP, et Éric Revel.
Oui. Oui, parce qu'il y a une enquête hein, ce matin, on en a parlé, Frédéric Dabi, hein, donc sur l'image de la France, hein, l'état de la France à un an de la présidentielle. Qu'en disent les Français alors ?
Oui, non, c'est intéressant. Cette enquête, on la mène depuis 2005. Elle reflète l'état d'esprit des Français et elle en dit long sur le sentiment de défiance, l'inquiétude du pays à un an du scrutin présidentiel. Les deux représentations les plus fortes reflètent une certaine ambivalence. D'un côté, l'image du déclin s'est complètement installée, la France qui tombe après un an de Covid, après ce juin 40 sanitaire que nous avons vécu, après le décalage entre le « nous sommes en guerre » du président de la République martelé en mars 2020 et le sentiment que les hôpitaux, les soignants, notre production industrielle était complètement défaillante, et une France qui manque de confiance en elle à 61%. Pour autant, les Français ont le sentiment que leur pays a beaucoup d'atouts. C'est là, Patrick, que se niche cette ambivalence. Ouais. 73% des Français considèrent que la France a beaucoup d'atouts, mais quand on le compare sur le long temps, ils étaient 89% en 2005, qui était pourtant une année assez compliquée. Ouais. Les émeutes de banlieue, mmh. l'AVC de Jacques Chirac, toute une série de troubles, et ils étaient encore 83% en 2020. Une fois de plus, on voit à quel point le Covid a été une sorte d'accélérateur, d'amplificateur de tendance à l'œuvre. Et il y a deux résultats absolument dévastateurs, parce que ça relève des ressorts de fierté, de réassurance des Français. Ils ne sont plus que 47% à dire que la France a une bonne image à l'étranger. Ils étaient 58% en 2020. Donc, en un an, vous vous rendez compte, 11 points, c'est beaucoup. Et de la même manière, ils ne sont plus que 47% à dire que la France constitue un modèle pour l'étranger. Et quand on travaillait dans les études qualitatives sur la notion de modèle, c'était notre modèle social et notre modèle de santé. Le Covid a tout bousculé.
Oui, c'est ça. Sur l'image quand même du déclin, dès 2005, c'était le même chiffre. Hein. Ça avait remonté, hein. C'était 66% en 2005, oui. Et ça avait remonté, et là, 66%, quoi.
Oui.
Non, donc, alors, c'est étonnant, non ?
Alors, oui et non, l'image du déclin, la France qui tombe, ça a toujours été une représentation politique forte, qui a toujours été portée par un courant politique, hein, l'extrême droite. Jean-Marie Le Pen, je parle sous le contrôle d'Arlette Chabot, ouais. son fonds de commerce dès 1984, dès qu'il émerge sur la scène politique fortement, c'est la France qui tombe. Mmh. C'est la France en déclin. La différence par rapport à 2005, c'est qu'en 2005, il y avait des vrais clivages générationnels. Ouais. Gauche-droite, là, c'est un constat partagé par tous. Il n'y a pas la moindre différence entre les jeunes et les personnes les plus âgées. Et une fois de plus, le Covid a servi, je pense, de catalyseur.
Oui, ce qui est un peu inquiétant, c'est est capable de se réformer simplement 46%. Et là, il y avait 70% il y a quelques années, quand même.
C'est 24 points de moins depuis.
Oui.
Alors, la date est très intéressante, depuis juillet 2010. Juillet 2010, c'est quelques semaines avant la fameuse réforme des retraites Sarkozy-Fillon-Woerth. Et on voit très bien que depuis cette réforme, depuis celle de 2020, on oublie qu'avant le Covid, en décembre 2019, il y a eu un très fort mouvement social contre la réforme des retraites d'Édouard Philippe. Depuis ce moment-là, il y a un doute des Français sur la capacité du pays à se réformer, parce que pour beaucoup de Français, réforme veut dire recul d'un acquis social.
Oui, Arlette Chabot, donc des enseignements de ce sondage, selon vous ?
Si on regarde ce qui va se passer dans un an, effectivement, une élection présidentielle, c'est important. Au fond, Emmanuel Macron, il avait été élu dans un mouvement d'optimisme, c'est-à-dire que parce qu'il est jeune, il est nouveau,
il suscitait de l'espoir.
Ans, 5 ans. Oui, il y avait un grand espoir. On balayait, c'était pas le dégagisme façon Mélenchon, mais c'était une nouveauté, une reprise de dynamique, donner une chance à la France. Donc il y a tout un espoir. Et la grande difficulté pour Emmanuel Macron, ça va être après cette séquence notamment sanitaire qui a montré tout ce qui ne va pas en France, tous les échecs, y compris l'incapacité d'une grande entreprise Sanofi de nous donner un vaccin, c'est le déclin français qui revient. Donc si Emmanuel Macron, il va repartir en campagne au mois de juin, son objectif, ce sera effectivement de redonner cet espoir à la France.
Oui, oui. Éric Revel ?
Oui, d'abord je voudrais dire à Frédéric Dabi que je considère que le déclinisme français écrit en long, en large et en travers par Nicolas Bavrez, c'est pas une thèse de l'extrême droite, c'est une thèse que constatent les Français. Ah. Et le déclin, mais il ne fait aux yeux des Français, me semble-t-il, que de s'accélérer. Il y a l'affaire du vaccin Sanofi que vient de rappeler Arlette, mais il y a aussi année après année le fait que la France perd des rangs dans le classement des grandes puissances économiques mondiales. Donc ce déclin, c'est pas un fantasme porté par un courant politique, c'est une réalité qui est malheureusement qui est constatée par beaucoup de Français. Et ce déclin français, il a quelque chose évidemment d'angoissant quand même, parce qu'il y a les générations que nous représentons, et puis il y a toutes les générations qui sont derrière nous, qui sont nos enfants ou nos petits-enfants, dans un pays qu'on va leur laisser dans une drôle de situation.
Oui, Frédéric Dabi.
Oui, je voulais préciser mon propos. Je parlais, Eric, bien sûr, d'histoire des idées politiques, mais bien sûr, la notion de déclin, quand il y a 66% des Français qui le partagent, ça devient... Voilà. Une perception de la réalité, ce qui est très intéressant. Et on connaît le fameux livre « Mythe et mythologie politique » de Raoul Girardet. La question du déclin s'accompagne, je dirais de manière très étroite, de l'idée d'un âge d'or. Un âge d'or perdu, c'est la France d'Amélie Poulain. Hein. On a fêté les 20 ans de la sortie. C'était mieux avant. Mais quand même, là où je nuance, et je trouve que tout n'est pas, si je puis dire, foutu, c'est que malgré la période très compliquée que nous vivons, nous avons encore trois quarts des Français qui considèrent que la France a beaucoup d'atouts. tout, mais qu'elle ne sait pas les déployer et les mettre en valeur.
Eh ben, nous, ce matin, nous en parlons avec notamment ce secteur de l'emploi, où il y a des milliers et des centaines de milliers d'offres d'emploi, et on n'arrive pas à trouver, on le décline depuis ce matin, 7h10, avec des témoignages, mais dans tous les secteurs, hein, c'est ça qui est assez terrible. Alors, c'est parce qu'il y a un problème de mobilité, il y a un problème d'adaptation des postes, et ça va des postes pour le maintien, par exemple, de personnes à domicile, à des métiers beaucoup plus diplômants et diplômés, tels que ceux d'ingénieurs, dans le numérique, dans la transition écologique. Donc, il y a beaucoup à faire. Je crois que d'ailleurs, au 0826 300 300, Martial voulait réagir sur ce sujet. Hein. Bonjour, Martial.
Bonjour.
Oui.
Bonjour.
Bonjour, Martial. Quelle est votre réaction, vous ?
Ma réaction, et moi je suis assez inquiet quand même sur le marché de l'emploi.
Oui.
Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on propose, on parle de plein emploi, mais moi je m'interroge sur la qualité de l'emploi qui est proposé.
Oui.
Parce que travailler, oui, on peut toujours trouver travailler, mais si le projet pour la France, c'est d'ubériser totalement la société avec des emplois précaires et des rémunérations totalement inadaptées et permettant de vivre dignement, j'appelle pas ça du plein emploi.
Oui.
Voilà, c'est une vraie vérité. Aujourd'hui, je suis chef d'entreprise, avec des prix tirés toujours vers le bas par nos clients. C'est difficile de donner une rémunération cohérente aux salariés, ça devient très compliqué. Voilà, très compliqué.
C'est vrai que c'est l'une des difficultés. Est-ce que vous, par exemple aussi, Martial, vous recherchez du personnel et vous avez du mal à en trouver, ou au contraire, finalement, ça va plutôt pour dans votre secteur ?
Non, j'ai du mal à en trouver. C'est, ouais. Mais je pense, moi, je fais une petite digression. Je suis contre la réforme de l'assurance chômage, d'accord ? Parce que je persiste à croire que non, les chômeurs ne sont pas des feignants. Alors on parle de quelques centaines de milliers d'emplois non pourvus. D'abord, je voudrais savoir quel type d'emploi.
Oui. Ah ben ça, on le dira juste après 9h, hein, parce qu'on a des éléments très très précis avec Jérôme Laverny qui sera avec nous, Martial.
Oui, voilà. Oui. Et ensuite, je pense que Pôle emploi, et je ne rejette pas la pierre, n'ont pas les moyens de mettre réellement en adéquation les demandes et les offres d'emploi. En fait, ils sont complètement noyés, on vous envoie des CV, et on reçoit des gens qui ne correspondent pas vraiment au profil.
Ouais, c'est pas qualifié, voilà. Pas qualifié pour les postes, en tout cas, les CV qui vous sont envoyés. C'est une bonne réflexion, parce que c'est ce problème d'adaptation de nos structures, visiblement, qui bloque un peu le système. C'est ce que l'on verra avec Jérôme Laverny et vos témoignages encore au 0826 300 300. Merci donc, Frédéric Dabi, pour cette enquête, hein, sur les représentations associées à la France à un an de la présidentielle. Beaucoup d'atouts, mais elle est sur le déclin, et surtout, on ne voit pas les réformes arriver. Quoi, hein. C'est les principaux enseignements.
Et on parlera des pistes envisagées, hein, par Pierre Gattaz, qui est l'ancien patron du MEDEF, qui revient avec ce livre ce matin aux alentours de 9h15. Le cœur et le courage aux éditions du Débat Public. À tout de suite.
Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
Il est 9h05, merci d'être avec nous jusqu'à 10h. On va vous parler emploi, recrutement avec des spécialistes. Jérôme Laverny est avec nous de nouveau ce matin avec Sébastien Collard, qui est directeur régional d'Île-de-France Centre-Est chez Synergie, groupe RH, au service des entreprises sur le recrutement. Et dans une petite dizaine de minutes, Pierre Gattaz sera avec nous, qui est l'ancien patron du MEDEF, pour ce livre Le cœur et le courage aux éditions Débat Public. Vous nous appelez maintenant 0826 300 300, puisqu'en vue du déconfinement, est-ce qu'il y a une reprise justement du niveau des recrutements?
Oui, c'est ça. Et puis l'emploi, comment se porte-t-il en France? Et est-ce qu'on peut aller vers ce fameux plein emploi? Il a été évoqué aux États-Unis par Joe Biden. En France aussi, on en parle toujours. Pierre Gattaz, d'ailleurs, il a été un petit peu brocardé à l'époque quand il avait lancé aussi son million d'emplois et reparlé ensuite du plein emploi. Il l'évoque dans Nancy. Et c'est vrai qu'on se dit que pourquoi pas finalement, même si 90% des Français, des auditeurs qui sont interrogés, disent non, qu'ils n'y croient pas au plein emploi. Et puis alors après, ça dépend de ce que disait Martial qu'on avait juste avant, mais alors quel emploi aussi demain, quoi.
Oui, c'est ça. Au risque de choquer, moi j'ose affirmer que nous sommes dans la capacité d'obtenir le plein emploi, et cela assez rapidement. c'est vrai que la grande difficulté, c'est tout d'un coup de faire converger les intérêts des uns et des autres. Mmh. Autrement dit, d'un employeur et d'un candidat. Il y a un certain nombre de commentaires d'auditeurs consistant à dire « Oui, mais quel emploi ? Oui. Comment rémunérer ? Ils sont mal payés. » Et enfin, c'est vrai qu'aujourd'hui...
Il y a quand même toute une frange de la population qui va falloir reformer. C'est-à-dire que, qui aujourd'hui, dont les métiers vont disparaître et donc il va falloir trouver des solutions.
Tout à fait. Alors, tout à fait. Par contre, en revanche, il y a un serpent de mer qui revient systématiquement, celui consistant, et il a été mentionné ce matin, celui consistant à dire il y a inadéquation entre les formations et les emplois. Mmh. Et moi, je considère que c'est faux aujourd'hui.
C'est faux. Ah
bon. C'est faux. J'en veux pour preuve le nombre d'employeurs qui sont très ouverts du point de vue des profils. Contrairement à l'idée reçue où en France, on considère que les entreprises sont attachés au diplôme, contrairement aux États-Unis. Et c'est pas vrai. La réalité du terrain démontre que dans la bouche des employeurs, ils sont bien plus open, pour dire les choses concrètement, du point de vue des profils. Ce sont des compétences et des personnalités qui
recherchent. Oui, mais alors pourquoi certains vous disent, non mais dans l'industrie, je pense à des secteurs très particuliers, on dit, non mais on n'arrive pas à trouver en France parce qu'on n'en forme plus, on est obligé d'aller chercher à l'étranger.
Il y a plein de raisons différentes, concrètes, simples, dont un seul audit permettrait d'identifier non seulement les causes, mais surtout, avec les causes, les solutions. Parlons de l'industrie. Nous sommes dans un pays où, je suis désolé, pendant des décennies, on a dénigré, ignoré les métiers manuels. Et ça continue encore. J'en veux pour preuve. Soyons concrets, parce qu'il ne s'agit pas de partir dans les envolées lyriques. Sûr. Soyons concrets. Le précédent gouvernement avait fait un contrat aider pour les jeunes, consistant à dire, voilà, pour les jeunes éloignés de l'emploi, on va donner certaines aides. Je ne les rappelle pas, ce n'est pas le sujet. Qu'est-ce qu'était un jeune éloigné de l'emploi pour ce précédent gouvernement, en tout cas pour le type qui a pondu ce truc-là ? C'était un jeune, entre autres, titulaire du CAP ou BEP. Il faut qu'il soit complètement dingue, le type qui a conçu ça. Moi, un jeune qui est titulaire d'un CAP boucher ou poissonnier, je lui trouve du boulot dans la journée. Dans la journée. Mais qu'est-ce que dit, en fait, ce contrat aidé ? Il dit le mépris qu'on a eu pour les métiers manuels, où pendant des décennies, et on continue encore, on oriente un jeune vers ces métiers à la seule et unique condition qu'il soit mauvais à l'école.
Oui,
s'il
a
des mauvais
résultats
scolaires, on n'aime pas les métiers manuels. Tu finiras coiffeuse. Voilà un discours qu'on continue à entendre. Eh bien, à jouer ce jeu-là, on n'a personne dans l'industrie et on n'a personne dans le bâtiment.
Oui, non, mais c'est surtout ça, c'est l'industrie, tout ce qui est logistique, des transports, etc., recherche...
Autre chose concrète, qui sait ce que fait un chaudronnier, si ce n'est à s'imaginer quelque chose confinant, Astérix, Obélix. Or, ça recrute beaucoup. Et là, il y a une autre donnée. Quand décidera-t-on un jour de faire en sorte que les professeurs à l'école soient formés sur l'orientation ? Je sais bien, et c'est aussi quelque chose qui revient systématiquement, que l'éducation nationale, il n'est pas question de former des futurs salariés. Mais moi, je suis désolé. Les jeunes, un jour, vont sortir de l'éducation nationale, que ce soit de l'université ou ailleurs, et ils vont rentrer sur le marché du travail, sauf à gagner au loto. Or, on ne forme toujours pas les professeurs sur l'orientation. C'est-à-dire que moi, j'aimerais qu'on fasse un sondage dans un lycée pour savoir quel nombre de professeurs savent ce que c'est un chaudronnier. Et ça, c'est très important, Patrick. J'ai rencontré 12 jeunes il y a 2 ans, chaudronniers, justement, apprentis chaudronniers. J'ai voulu les interroger individuellement. Chacun. Il n'y en a pas un qui a fait exception, m'a dit « Je suis là parce qu'il y a mon cousin, mon voisin, mon tonton, etc. » Autrement dit, ils avaient été là par un conseil personnel.
Une sorte de filiation.
Ce n'est pas un prof qui va dire « Attends, il y a un très bon truc, c'est chaudronnier. » On ne forme pas les professeurs à l'orientation.
Pourtant, l'artisanat revient aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on met un peu en avant. Avec ce qui s'est passé avec Notre-Dame, on se rend compte que tous ces métiers-là reviennent.
Oui, dans les images. Et la communication est très importante. Vous, les médias, vous avez un rôle à jouer qui est primordial. Car, émission télé-réalité sur les pâtissiers il y a 4 ans, au lendemain de cette émission de télé-réalité, le CAP pâtissier a augmenté de 450%. C'est l'image qu'il faut effectivement corriger. Mais ça n'est pas suffisant. Les métiers ne sont pas suffisamment connus et ils sont, pour un certain nombre d'entre eux, méprisés.
Non, mais c'est vrai. Et il y a peu de visibilité pour savoir précisément ce que font les métiers. Et puis, les ados ne sont pas beaucoup informés. Ils ont grandes généralités. Mais ça, ce n'est peut-être pas le problème quand même de l'éducation nationale en tant que telle avec les profs qui sont là pour enseigner un prof d'histoire ou de maths. Il enseigne en fait
Ça n'empêche plus, pas d'être un relais.
C'est plus après des conseillers d'orientation.
C'est pas la raison principale, bien sûr. C'est pas l'objet principal de l'éducation nationale. Mais on peut pas l'écarter. À un moment donné, un conseiller de classe va se prononcer sur le choix d'un élève. Et on voit trop d'élèves qui choisissent avec un panel très très réduit. Je veux travailler dans l'événementiel, dans le culturel, dans l'humanitaire, communication, avocat, médecin. Voilà, si on fait un sondage des métiers qui figurent dans le cerveau d'un jeune au lycée, on aura la surprise de s'apercevoir qu'il est infiniment réduit par rapport à la réalité du terrain. Bien. Donc les jeunes, c'est pas de leur faute. Non. On peut pas se borner à mettre 30 000 orientations sur Parcoursup. Il faut que le choix des jeunes soit un choix éclairé. Qui sait ce que c'est un géomaticien?
Il faut le dire aux jeunes. Je ne savais pas.
Avant que de rencontrer
un géomaticien.
C'est un gars qui fait de la géographie et de la statistique.
Ah oui, d'accord. Voilà. Bon. Sébastien Collard est avec nous, directeur régional Île-de-France Centre-Est chez Synergie, un groupe qui est au service des entreprises sur le recrutement. Bonjour à vous.
Bonjour à vous, bonjour Cécile, bonjour Jérôme, bonjour Patrick.
Oui,
bonjour.
Alors, on a parlé donc avec Jérôme de ce problème d'adaptation, entre guillemets, du marché du travail et puis de l'orientation. Vous êtes directement confronté aussi au terrain, puisque vous êtes intermédiaire. Est-ce que vous avez des candidats, alors du côté d'abord des gens qui recherchent de l'emploi, qui
des
cherchent un emploi, des propositions de l'autre côté venant des entreprises?
Alors, pour les propositions venant des entreprises, il y a une vraie reprise d'activité sur le mois d'avril et mai. Il y a une reprise qui est certaine depuis quelques mois maintenant. Les chiffres qu'on a pu recevoir en mars, par exemple, sur les annonces collectées et satisfaites par Pôle emploi notamment, sont très prometteuses. On a une augmentation de 64% des offres qui ont été fournies. Donc, ça veut dire, ce chiffre-là était négatif depuis un an. Donc, ça veut dire que la reprise est bien ici. Et sur l'activité recrutement CDD, CDI, on a plusieurs métiers. Donc, sur le recrutement classique, on a un portefeuille de commandes qui ne cesse d'augmenter avec des postes qui, sur avril, mai et déjà mars qu'on a clôturé, ont vu des postes closés de plus en plus vite.
Dans quel secteur précisément? Est-ce qu'il y a des secteurs? Parce que souvent, on parle de façon absolue, donc ça parle moins aux auditeurs.
Oui, on a des secteurs forcément qui ont repris immédiatement, comme le BTP, la santé, tout ce qui tourne autour de la logistique alimentaire et la logistique en règle générale. Et puis, on a des métiers dans l'industrie qui repartent depuis le début de l'année. Assez facilement, l'automobile repart, on a quelques commandes en aéronautique qu'on voit arriver. Donc voilà, tous les métiers sont en train
Sébastien Collard, est-ce que vous avez des personnes qui sont qualifiées, qui sont disponibles pour pouvoir répondre à ces annonces?
Alors, on en a des personnes disponibles, mais on manque forcément aujourd'hui de ressources et de personnes qualifiées. Enfin, c'est la grosse problématique, on en parlait hier encore avec Jérôme. On manque de ressources, on manque de candidats, on manque de qualifications. Il y a effectivement des métiers aujourd'hui sur lesquels on n'arrive pas à recruter, les métiers qualifiés. On parlait de plombier, on parlait dans l'industrie, Jérôme parlait des chaudronniers, mais c'est vrai pour les métiers de fondeurs, c'est vrai pour les soudeurs, c'est vrai pour les plombiers, les électriciens. Enfin, tous ces métiers-là peinent aujourd'hui à trouver des candidats qui soient qualifiés. On forme pour forcément... réussir à pourvoir les offres, mais forcément, on est...
Mais on ne peut pas former en quelques jours, quoi, non plus.
Ah, c'est évident, ça demande un certain temps.
Mais justement, est-ce qu'il y a beaucoup de reconversions professionnelles?
Alors, on entend aussi dans les métiers de la restauration qui commencent à s'organiser pour repartir là, rapidement. On voit bien qu'il y a des gens qui ont changé d'orientation professionnelle et qui sont partis sur d'autres activités. Et on voit bien que dans les gens qu'on forme aujourd'hui, on a des jeunes qui sortent de l'école et qui sont sans diplôme, sans formation, et qui, à un moment donné, décident de s'orienter. Et puis, des personnes qui sont déjà un petit peu plus avancées, qui ont déjà connu une, deux expériences professionnelles avec des métiers, qualifiés ou pas d'ailleurs, et qui, à un moment donné, veulent faire autre chose.
Comme quoi c'est possible. Alors, l'une des interrogations aussi, ce qu'on voyait avec Martial tout à l'heure, qui disait bien souvent aussi, c'est parce qu'on propose des jobs inadaptés surtout, mais qui ne sont pas très bien rémunérés et pas forcément aussi avec de bons contrats et de vrais contrats. Est-ce que c'est, avant de Jérôme Lavernie, un dernier mot avec vous, Sébastien Collard, peut-être sur ce sujet?
je ne suis pas tout à fait d'accord. Enfin, vous avez des entreprises aujourd'hui qui proposent des postes sur des durées de 12, 18 mois ou même des recrutements. On recrute nous-mêmes des intérimaires en CDI intérimaire et on peine parfois à trouver des candidats sur ces postes-là. Les missions sont relativement longues. Et on a plein de métiers aujourd'hui où les conditions de rémunération sont très satisfaisantes.
Oui, oui. Jérôme Lavernie, merci. Hein, Sébastien Collard, donc, on rappelle que vous travaillez chez Synergie. Jérôme Lavernie, oui, parce que Martial disait, oui, c'est des petits boulots pas bien payés. Aussi.
Le motif de la rémunération est un motif juste et légitime dans certains cas, pas dans tous. Oui, c'est vrai. Et il est important de le souligner, car je parlais de contrats aidés. Il en va de la responsabilité des pouvoirs publics. Jusqu'à aujourd'hui, les pouvoirs publics ont imaginé contrats aidés par rapport au public.
Oui, oui.
Là où en réalité, il s'agirait peut-être aujourd'hui de l'inventer par rapport aux emplois.
Oui.
Parce que c'est vrai qu'il y a manifestement des emplois qui ne peuvent pas converger avec l'intérêt d'une personne. On ne peut pas être préparateur de commandes au fin fond de la Seine-et-Marne, au SMIG, avec un tarif de déplacement, etc. Pour autant, il y a aussi des métiers qui sont bien rémunérés et qui, pour le temps, ne trouvent pas preneur. Mmh. J'ai eu connaissance d'une offre d'emploi de plombier et d'électricien entre 2005 et 2008. Voilà. Il y avait des postes au fin fond de la Creuse d'opérateurs de production à 2005 et il n'y avait pas de candidats. On n'avait pas de candidats. Donc, le motif de la rémunération est un motif, oui, juste, légitime, qui n'explique pas tout. Je répète, les causes sont différentes.
La géographie.
Il faut les identifier. Je vais en donner une très concrète encore.
Ouais.
Aujourd'hui, recruter quelqu'un qui en France parle anglais, c'est pas simple.
Mmh. Ouais,
c'est pas simple.
Mais la géographie joue aussi.
Bien sûr.
Ouais, les gens ne bougent pas, etc. Bah, ce que vous voulez dire, la mobilité.
Les gens ne bougent pas ou on ne les aide pas. Il faudrait organiser. Il faudrait qu'il y ait une stratégie aussi. Mmh. Ce sont les entreprises qui s'organisent. Mmh. On a parlé de Saint-Gobain tout à l'heure. Il m'a été donné un jour de visiter une usine à Saint-Gobain près d'Angers où la RH recevait un candidat venant de Strasbourg. Mais c'est elle qui avait été le chercher.
Ouais. Merci beaucoup, en tout cas, Jérôme Lavernie. C'est très complet et on va continuer dans un instant. Sur un terrain entre les chefs d'entreprise et la politique avec Pierre Gattaz, parce qu'il connaît parfaitement le sujet pour avoir été patron des patrons et puis il est toujours évidemment aussi en activité. Il a écrit un petit livret, Le cœur et l'ouvrage, Le cœur et le courage, ça pourrait être l'ouvrage.
Absolument.
D'ailleurs, où il montre qu'il y a quand même un tas de pistes. Quoi. Oui, bien sûr,
c'est intéressant. Est-ce que j'ai encore deux petites secondes
Allez-y.
Oui, quand même, il en va de la responsabilité des pouvoirs publics, de la stratégie.
Oui.
Nous connaissons un plan de relance qui a plein de choses très intéressantes, mais quand même qui s'appelle Un jeune, une solution. Mmh. Il va falloir sortir de cette antienne, de cette obsession pour les jeunes. Mmh. Un jeune, une solution, c'est une discrimination. Alors, moi, j'aurais bien aimé qu'on appelle un petit chauve une solution, vous voyez. Mais on sort d'une crise sanitaire où on offre des solutions, un vaccin pour tout le monde.
Ouais.
Autre chose encore, sur le site internet du Pôle emploi, aujourd'hui, au compteur, 805 000 offres.
Ouais.
Quand on décoche inclure les offres partenaires, c'est-à-dire les cabinets de recrutement ou les agences d'intérim, on tombe à 194 000. Il y a un message là-dedans.
Ouais. Et il s'agirait Pôle emploi n'est pas organisé pour ça, en fait. Quoi. C'est un peu ça, non?
Il faut revoir la stratégie. Et je parlais du site du Bon Coin, qui publie 10 offres de la mairie de Mulhouse. La mairie de Mulhouse, c'est l'État qui ne publie pas ses offres d'emploi sur le Pôle emploi, mais sur le Bon Coin. Et je pourrais multiplier les exemples. Mmh. Il faut revoir la stratégie de façon concrète, simple et pragmatique.
Ouais. Merci beaucoup, Jérôme Lavernie. C'était très complet. On continue. Donc, réagissez à tout ce que vous venez d'entendre. Est-ce qu'on est adapté? Est-ce qu'on n'est pas adapté? Est-ce que vous croyez au plein emploi? On pose toutes les questions à Pierre Gattaz. Il sera avec nous, sans tabou, sur Sud Radio.
À tout de suite, 9h20.